Chapitre 20. Une histoire de la terreur. 94 sonnait à l'horloge du 18e siècle. 94 dont chaque minute fut sanglante et enflammée. L'heure de terreur frappait horriblement et lentement au gré de la terre et du ciel qu'il écoutait en silence. On aurait dit qu'une puissance insaisissable comme un fantôme passait et repassait parmi les hommes, tant leurs visages étaient pâles, leurs yeux égarés, leurs têtes ramassées entre leurs épaules reployées, comme pour les cacher et les défendre. Cependant, un caractère de grandeur et de gravité sombre était empreint sur tous ces fronts menacés et jusque sur la face des enfants. C'était comme ce masque sublime que nous met la mort. Alors les hommes s'écartaient les uns des autres ou s'abordaient brusquement comme des combattants. Leur salut ressemblait à une attaque, leur bonjour à une injure, leur sourire à une convulsion, leur habillement au haillon d'un mendiant, leur coiffure à une guenille trempée dans le sang, leur réunion à des émeutes, leur famille à des repères d'animaux mauvais et défiants, leur éloquence aux cris des halles, leurs amours aux orgies bohémiennes, leurs cérémonies bibliques à de vieilles tragédies romaines manquées sur des tréteaux de province, leur guerre à des migrations de peuples sauvages et misérables, les noms du temps à des parodies poissardes. Mais tout cela était grand parce que, dans la cohue républicaine, si tout homme jouait au pouvoir, tout homme du moins jetait sa tête au jeu. Pour cela seul, je vous parlerai des hommes de ce temps-là plus gravement que je n'ai fait des autres. Si mon premier langage était scintillant et musqué comme l'épée de balle et de la poudre, si le second était pédantesque et prolongé comme la perruque et la queue d'un alderman, je sens que ma parole doit être ici forte et brève comme le coup d'une hache qui sort fumante d'une tête tranchée. Au temps dont je veux parler, la démocratie régnait. Les décemvirs, dont le premier fut Robespierre, allaient achever leur règne de 3 mois. Ils avaient fauché autour d'eux toutes les idées contraires à celles de la terreur. Sur l'échafaud des Girondins, ils avaient abattu les idées d'amour pur de la liberté. Sur celui des Hébertistes, les idées du culte de la raison unies à l'obscénité montagnarde des républicanistes. Sur l'échafaud de Danton, ils avaient tranché la dernière pensée de modération. Restait donc la terreur. Elle donna son nom à l'époque. Le comité de salut public marchait librement sur sa grande route, l'élargissant avec la guillotine. Robespierre et Saint-Just menaient la machine roulante. L'un la traînait en jouant le grand prêtre, l'autre la poussait en jouant le prophète apocalyptique. Comme la mort, fille de Satan, l'épouvante lui-même, la terreur, leur fille, s'étaient retournés contre eux et les pressaient de son aiguillon. Oui, c'était leurs effrois de chaque nuit qui faisaient leurs horreurs de chaque jour. Tout à l'heure, monsieur, je vous prendrai par la main et je vous ferai descendre avec moi dans les ténèbres de leur cœur. Je tiendrai devant vos yeux le flambeau dont les yeux faibles détestent la lumière, l'inexorable flambeau de Machiavel. Et dans ces cœurs troublés, vous verrez clairement et distinctement naître et mourir des sentiments immondes, nés à mon sens de leur situation dans les événements et de la faiblesse de leur organisation incomplète, plus que d'une aveugle perversité dont leurs noms porteront toujours la honte et resteront les synonymes. Ici, Stello regarda le docteur Noir avec l'expression d'une grande surprise. L'autre continua. « Oh, c'est une doctrine qui m'est particulière, monsieur, qu'il n'y a ni héros ni monstres. Les enfants seuls doivent se servir de ces mots-là. Vous êtes surpris de me voir ici de votre avis. C'est que j'y suis arrivé par le raisonnement lucide, comme vous par le sentiment aveugle. Cette différence seule est entre nous, que votre cœur vous inspire pour ce que les hommes qualifient de monstres, une profonde pitié, et ma tête me donne pour eux un profond mépris. C'est un mépris glacial, pareil à celui du passant qui écrase la limace. Car s'il n'y a de monstres qu'aux cabinets anatomiques, toujours y a-t-il de si misérables créatures, tellement livrées et si brutalement à des instincts obscurs et bas, tellement poussées sous le vent de leur sottise, par le vent de la sottise d'autrui, tellement enivrées, étourdies et abruties du sentiment faux de leur propre valeur et de leurs droits établis on ne sait sur quoi, que je ne me sens ni rire ni larmes pour eux, mais seulement le dégoût qu'inspire le spectacle d'une nature manquée. Les terroristes sont de ces gens qui souvent m'ont fait ainsi détourner la vue. Mais aujourd'hui, le y ramène pour vous, cette vue attentive et patiente que rien ne détournera de leurs cadavres, jusqu'à ce que nous ayons tout observé jusqu'aux os du squelette. Il n'y a pas d'année qui ait fait autant de théories sur ces hommes que n'en fait cette année 1832, en un seul de ces jours, parce qu'il n'y a pas d'époque où plus grand nombre de gens aient nourri plus d'espérance et amassé plus de probabilités de leur ressembler et de les imiter. C'est en effet une chose toute commode aux médiocrités qu'un temps de révolution. Alors que le beuglement de la voix étouffe l'expression pure de la pensée, que la hauteur de la taille est plus prisée que la grandeur du caractère, que la harangue sur la borne fait taire l'éloquence à la tribune, que l'injure des feuilles publiques voile momentanément la sagesse durable des livres, quand un scandale de la rue fait une petite gloire et un petit nom, quand les ambitieux centenaires feignent pour les piper d'écouter les écoliers imberbes qui les endoctrinent, quand l'enfant se guinde sur le bout de pied pour brécher les hommes, quand les grands noms sont secoués pêle-mêle dans des sacs de boue et tirés à la loterie populaire par la main des pamphlétaires, quand les vieilles rondes de famille redeviennent des espèces d'honneurs, hérédité chère à bien des capacités connues, quand les taches de sang font auréole au front, sur ma foi, c'est un bon temps. À quelle médiocrité, s'il vous plaît, serait-il défendu de prendre un grain luisant de cette grappe du pouvoir politique, fruit réputé si plein de richesses et de gloire? Quelle petite coterie ne peut devenir club? Quel club assemblé? Quelle assemblée comice, quel comice sénat, et quel sénat ne peut régner? Et ont-ils pu régner sans qu'un homme y régnât? Et qu'a-t-il fallu oser? Oh, le beau mot que voilà, quoi, c'est là tout? Oui, tout. Ce qu'ils ont fait, l'ont dit. Courage donc, vide cerveau, criez, courez! Ainsi font-ils. Mais l'habitude des synthèses a été prise dès longtemps par eux sur les bancs. On en a pour tout, on les attelle à tout, le sonnet à la sienne. Quand on veut user des morts, on peut bien leur prêter son système. Chacun s'en fait un bon ou mauvais. Celle a tout chevaux, il faut qu'elle aille. Monterez-vous le comité de salut public? Qu'il endosse la selle. On a cru les membres de ce comité farouche défoués profondément aux intérêts du peuple et tout sacrifiant au progrès de l'humanité, tout jusqu'à leur sensibilité naturelle, tout jusqu'à l'avenir de leur nom qu'ils vouaient sciemment à l'exécration. système de l'année à son usage. Il est vrai qu'on les a presque dits aussi hydrophobes. On les a peints comme décidés à raser de la surface de la terre toutes les têtes dont les yeux avaient vu la monarchie, et gouvernant tout exprès pour se donner la joie d'égorger. Système de trembleurs surannés. On leur a construit un projet édifiant d'adoucissement successif dans leur pouvoir, de confiance dans le règne de la vertu, de conviction dans la moralité de leurs crimes. Mais système d'honnêtes enfants, qui n'ont que du blanc et du noir devant les yeux, ne rêvent qu'anges ou démons et ne savent pas quel incroyable nombre de masques hypocrites de toute forme, de toute couleur, de toute taille peut cacher les traits des hommes qui ont passé l'âge des passions dévouées et se sont livrés sans réserve aux passions égoïstes. Il s'en trouve qui, plus fort, font à ces gens l'honneur de leur supposer une doctrine religieuse. Ils disent « Mais s'ils étaient athées et matérialistes, peu leur importait. Un meurtre impuni ne fait qu'écraser, selon leur foi, une chose agissante. S'ils étaient panthéistes, peu leur importait-il, puisqu'ils ne faisaient qu'une transformation selon leur foi. Reste donc le cas fort douteux où ils étaient chrétiens, sincères. Et alors la damnation était réservée pour eux-mêmes et le salut et l'indulgence pour la victime. À ce compte, il y aurait encore dévouement et service rendu à ses ennemis. Ô paradoxe, que j'aime vous voir sauter dans le cerceau. Et vous, que dites-vous ? Interrompit Stello, passionnément attentif. Et moi, oh, je vais chercher à suivre pas à pas les chemins de l'opinion publique relativement à eux. La mort est pour les hommes le plus attachant spectacle, parce qu'elle est le plus effrayant des mystères. Or, comme il est vrai qu'un sanglant dénouement suffit à illustrer quelques médiocres drames, à faire excuser ses défauts et vanter ses moindres beautés, de même, l'histoire d'un homme public est illustrée aux yeux du vulgaire par les coups qu'il a portés et le grand nombre de morts qu'il a donnés, au point d'imprimer pour toujours je ne sais quel lâche respect de son nom. Dès lors, ce qu'il a osé faire d'atroce est attribué à quelque faculté surnaturelle qu'il posséda. Ayant fait peur à tant de gens, cela suppose une sorte de courage pour ceux qui ne savent pas combien de fois ce fut une lâcheté. Son nom étant une fois devenu synonyme d'ogre, on lui sait gré de tout ce qui sort si peu ses habitudes du bourreau. Si l'on trouve dans son histoire qu'il a souri à un petit enfant et qu'il a mis des bas de soie, cela devient trait de bonté et d'urbanité. En général, le paradoxe nous plaît fort. Il heurte l'idée reçue, et rien n'appelle mieux l'attention sur le parleur ou l'écrivain. De là les apologies paradoxales des grands tueurs de gens. La peur, éternelle reine des masses, ayant grossi, vous dis-je, ces personnages à tous les yeux, met tellement en lumière leurs moindres actes qui serait malheureux de n'y pas voir reluire quelque chose de passable. Dans l'un, ce fut tel plaidoyer hypocrite, en l'autre, tel ébauche de système, tous deux donnant un faux air d'orateur et de législateur. Informes ouvrages où le style, empreint de la sécheresse et de la brusquerie du combat qui les enfantait, singe la concision et la fermeté du génie. Mais ces hommes gorgés de pouvoir et saoulés de sang, dans leur inconcevable orgie politique, étaient médiocres et étroits dans leur conception, médiocres et faux dans leurs œuvres, médiocres et bas dans leurs actions. Ils n'eurent quelques moments d'éclat que par une sorte d'énergie fiévreuse, une rage de nerfs qui leur venait de leur crâne d'équilibriste sur la corde. et surtout du sentiment qui avait comme remplacé leur âme. Je veux dire, l'émotion continue de l'assassinat. Cette émotion, monsieur, poursuivit le docteur, en se croisant les jambes et prenant une prise de tabac à son aise, l'émotion de l'assassinat tient de la colère, de la peur et du spleen tout à la fois. Lorsqu'un suicidé s'est manqué, si vous ne lui liez les mains, il redouble. Oh, tout médecin le sait. Il en est de même de l'assassin. Il croit se défaire d'un vengeur de son premier meurtre par un second, d'un vengeur du second dans le troisième, et ainsi de suite, pour sa vie entière, s'il garde le pouvoir. C'est une chose divine et sainte à jamais à ses yeux myopes. Il opère alors sur une nation comme sur un cours qu'il croit gangrené. Il coupe, il taille, il charpente, il poursuit la tache noire. Et cette tache, c'est son ombre. C'est le mépris et la haine qu'on a de lui. Il la trouve partout. Dans son chagrin mélancolique et dans sa rage, il s'épuise à remplir une sorte de tonneau de sang percé par le fond. Et c'est aussi là son enfer. Voilà la maladie qu'avaient ces pauvres gens dont nous parlons, assez aimables du reste. Je les ai, je crois, bien connus, comme vous allez voir par les choses que je vous conterai. Et je ne haïssais pas leur conversation. Elle était originale, il y avait du bon et du curieux surtout. Il faut qu'un homme voie un peu de tout pour bien savoir la vie vers la fin de la sienne. Science bien utile au moment de s'en aller. Toujours est-il que je les ai vus souvent et bien examinés. Qui n'avait pas le pied fourchu, qui n'avait point de tête de tigre, de hyène et de loup, comme l'ont assuré d'illustres écrivains. Ils se coiffaient, se rasaient, s'habillaient, déjeunaient. Il y en avait dont les femmes disaient « qu'il est bien ». Il y en avait plus encore dont on n'eût rien dit, s'il n'eussent rien été. Et les plus laids ont ici d'honnêtes grammairiens et de polydiplomates qui les surpassent en air féroce et dont on dit « laideur spirituelle ». Idées, idées en l'air, phrases de livres que toutes ces ressemblances animales. Les hommes sont partout et toujours de simples et faibles créatures, plus ou moins ballottées et contrefaites par leur destinée. Seulement les plus forts ou les meilleurs se redressent contre elles et la façonnent à leur gré au lieu de se laisser pétrir par sa main capricieuse. Les terroristes se laissèrent platement entraîner à l'instinct absurde de la cruauté et aux nécessités dégoûtantes de leur position. Cela leur advint à cause de leur médiocrité, comme j'ai dit. Remarque bien que dans l'histoire du monde, tout homme régnant qui a manqué de grandeur personnelle a été forcé d'y suppléer en plaçant à sa droite le bourreau comme ange-gardien. Les pauvres triumvirs dont nous parlons avaient profondément au cœur la conscience de leur dégradation morale. Chacun d'eux avait glissé dans une route meilleure, et chacun d'eux était quelque chose de manqué. L'un avocat mauvais et plat, l'autre médecin ignorant, l'autre demi-philosophe, un autre cul-de-jatte envieux de tout homme debout et entier. Intelligence confuse et mérite avorté de corps et d'âme. Chacun d'eux savait donc quel était le mépris public pour lui, et ces rois honteux, craignant les regards, faisaient luire la hache pour les éblouir et les abaisser à terre. Jusqu'au jour où ils avaient établi leur autorité triumvirale et décemvirale, leur ouvrage n'avait été qu'une critique continuelle, calomniatrice, hypocrite et toujours féroce des pouvoirs ou des influences précédentes. Dénonciateurs, accusateurs, destructeurs infatigables, ils avaient renversé la montagne sur la plaine, les Dantons sur les Hébert, les Desmoulins sur les Vergniaud, en présentant toujours à la multitude régnante la Méduse des conspirations, dont toute multitude est épouvantée, et la croyant cachée dans son sang et dans ses veines. Ainsi, selon leur dire, ils avaient tiré du corps social une sueur abondante, une sueur de sang. Et lorsqu'il fallut le mettre debout et le faire marcher, ils succombèrent à l'essai. Impuissants organisateurs, étourdis, pétrifiés par la solitude où ils se trouvèrent tout à coup, ils ne surent que recommencer à se combattre dans leur petit troupeau souverain. Tout haletant au combat, ils s'essayaient à griffonner quelques bouts de système dont ils n'entrevoyaient même pas l'application probable. Puis ils retournaient à la tâche plus facile de la monstrueuse saignée. Les 3 mois de leur puissance souveraine furent pour eux comme le rêve d'une nuit de malade. Ils n'eurent pas la force d'y prendre le temps de penser. Et d'ailleurs, la pensée, calme, saine, forte et pénétrante, comme je la conçois, est une chose dont il n'était plus digne. Elle ne descend pas dans l'homme qui a horreur de soi. Ce qu'il leur restait d'idée pour leurs usages dans la conversation, vous allez l'entendre, comme j'en eus moi-même l'occasion. L'ensemble de leur vie et les jugements qu'on en porte ne sont pas d'ailleurs ce qui m'occupe, mais toujours l'idée première de notre conversation. Leur disposition envers les poètes et tous les artistes de leur temps, je les prends pour dernier exemple. Et comme après tout, ils furent la dernière expression du pouvoir républicain-démocratique, ils me seront un type excellent. Je ne puis que gémir avec les républicains sincères et loyaux du tort que tous ces hommes-là ont fait au beau nom latin de la chose publique. Je conçois leur haine pour ces malheureux, âmes qui n'eurent pas une heure de paix, pour ces malheureux qui souillèrent aux yeux des nations leur forme gouvernementale favorite. Mais en cherchant un peu, ne pourront-ils garder la chose avec un autre nom? La langue est souple. J'en gémis, mais je n'y fus pour rien, je vous jure. Je m'en lave les mains. Lavez vos noms. Chapitre 21. Un bon canonnier. Il me souvient fort bien que le 5 termineur en 2 de la République, ou 1794, ce qui m'était totalement indifférent, j'étais assis, absolument seul, près de ma fenêtre qui donnait sur la place de la Révolution, et je tournais dans mes doigts la tabatière que j'ai là, quand on vint sonner à ma porte assez violemment, vers 8 heures du matin. J'avais alors pour domestique un grand Flandrin de fort douce et paisible humeur, qui avait été un terrible canonnier pendant 10 ans, et qu'une blessure au pied avait mis hors de combat. Comme je ne l'entendis pas ouvrir, je me levai pour voir dans l'antichambre ce que faisait mon soldat. Il dormait, les jambes sur le poêle. La longueur démesurée de ses jambes maigres ne m'avait jamais frappé aussi vivement que ce jour-là. Je savais qu'il n'avait pas moins de 5 pieds 9 pouces quand il était debout. Mais je n'en avais accusé que sa taille, et non ses prodigieuses jambes qui se développaient en ce moment dans toute leur étendue, depuis le marbre du poêle jusqu'à la chaise de paille, d'où le reste de son corps, et en outre, sa tête maigre et longue s'élevait, pour retomber en avant en forme de cerceau sur ses bras croisés. J'oubliais entièrement la sonnette pour contempler cette innocente et heureuse créature dans son attitude accoutumée. Puis accoutumée, car depuis que les laquais dorment dans les antichambres, et cela date de la création des antichambres des laquais, Jamais homme ne s'endormit avec une quiétude plus parfaite, ne sommeilla avec une absence plus complète de rêve et de cauchemar, et ne fut réveillé avec une égalité d'humeur aussi grande. Blaireau faisait toujours mon admiration, et le noble caractère de son sommeil était pour moi une source éternelle de curieuses observations. Ce digne homme avait dormi pendant 10 ans, et jamais il n'avait trouvé qu'un lit fût meilleur ou plus mauvais qu'un autre. Quelquefois, seulement en été, il trouvait sa chambre trop chaude, descendait dans la cour, mettait un pavé sous sa tête et dormait. Il ne s'enrhumait jamais et la pluie ne le réveillait pas. Lorsqu'il était debout, il avait l'air d'un peuplier prêt à tomber. Sa longue taille était voûtée et les os de sa poitrine touchaient à l'os de son dos. Sa figure était jaune et sa peau luisante comme un parchemin. Aucune altération ne s'y pouvait remarquer en aucune occasion, sinon un sourire de paysan, à la fois niais, fin et doux. Il avait brûlé beaucoup de poudre depuis 10 ans à tout ce qu'il avait eu d'affaires à Paris, mais jamais il ne s'était tourmenté beaucoup du point où frappait le boulet. Il servait son canon en artiste consommé, mais malgré les changements de gouvernement, qui ne comprenait guère, il avait conservé un dicton des anciens de son régiment et ne cessait de dire « Quand j'ai bien servi ma pièce, le roi n'est pas mon maître. » Il était excellent pointeur et est devenu chef de pièce depuis quelques mois, quand il fut réformé pour une large entaille qu'il avait reçue au pied de l'explosion d'un caisson sauté par maladresse au Champ de Mars. Rien ne l'avait plus profondément affligé que cette réforme, et ses camarades, qu'il aimait beaucoup et le trouvaient souvent nécessaire, l'employaient toujours à Paris et le consultaient dans les occasions importantes. Le service de son artillerie s'accommodait assez avec le mien, car étant rarement chez moi, j'avais rarement besoin de lui et souvent, lorsque j'en avais besoin, je me servais moi-même de peur de l'éveiller. Le citoyen Blaireau avait donc pris depuis 2 ans l'habitude de sortir sans me demander permission, mais ne manquait pourtant jamais à ce qu'il nommait l'appel du soir, c'est-à-dire le moment où je rentrais chez moi à 1 ou 2 heures du matin. En effet, je l'y trouvais toujours endormi devant mon feu. Quelquefois, il me protégeait lorsqu'il y avait revue ou combat ou révolution dans la révolution. En ma qualité de curieux, j'allais à pied dans les rues, en habit noir comme me voici, et la canne à la main comme me voilà. Alors je cherchais de loin les canonniers. Il en faut toujours un peu en révolution. Et quand je les avais trouvés, j'étais sûr d'apercevoir, au-dessus de leurs chapeaux et de leurs pompons, la tête longue de mon paisible blaireau, qui avait repris l'uniforme et me cherchait de loin avec ses yeux endormis. Il souriait en m'apercevant et disait à tout le monde de laisser passer un citoyen de ses amis. Il me prenait sous le bras, il me montrait tout ce qu'il avait à voir, me nommait tous ceux qui avaient, comme on disait, gagné à la loterie de Sainte-Guillotine, et le soir nous n'en parlions pas. C'était un arrangement tacite. Il recevait ses gages de ma main à la fin du mois et refusait ses appointements de canonnier de Paris. Il me servait pour son repos et servait la nation pour l'honneur. Il ne prenait les armes qu'en grand seigneur. Cela l'arrangeait fort, et moi aussi. Tandis que je contemplais mon domestique, ici je dois m'interrompre et vous dire que c'est pour être compris de vous que j'ai dit domestique, car en l'an 2, cela s'appelait un associé. Donc, tandis que je le contemplais dans son sommeil, la sonnette allait toujours son train et battait le plafond avec une vigueur inusitée. Blaireau n'endormait que mieux. Voyant cela, je pris le parti d'aller ouvrir ma porte. « Ben, vous êtes peut-être au fond un excellent homme, » dit Stello. « On est toujours bon maître quand on n'est pas le maître, » répondit le docteur Noir. « Donc, j'ouvris ma porte. » Chapitre 22. D'un honnête vieillard. Je trouvais devant moi deux envoyés d'espèces différentes, un vieillard et un enfant. Le vieux était poudré assez proprement. Il portait un habit de livrée où la place des galons se voyait encore. Il m'ôta son chapeau avec beaucoup de respect, mais en même temps il jeta les yeux avec défiance autour de lui, regarda derrière moi si personne ne me suivait, et se tint à l'écart sans entrer, comme pour laisser passer devant lui le jeune garçon qui était arrivé en même temps et qui secouait encore le cordon de la sonnette par son pied de biche. Il sonnait sur la mesure de la Marseillaise, qu'il sifflait. Vous savez, l'air probablement en 1832 où nous sommes. Il continua de siffler en me regardant effrontément et de sonner jusqu'à ce qu'il fût arrivé à la dernière mesure. J'attendis patiemment et je lui donnai 2 sous en lui disant « Allez, recommence-moi ce refrain-là, mon enfant. » Il recommença sans se déconcerter. Oh, il avait fort bien compris l'ironie de mon présent, mais il tenait à me montrer qu'il me bravait. Il était fort joli de figure, portait sur l'oreille un petit bonnet rouge tout neuf, et le reste de son habillement déguenillé à faire soulever le cœur. Les pieds nus, les bras nus, et tout à fait digne de nom de sans-culotte. « Le citoyen Robespierre est malade !» me dit-il d'un ton de voix clair et très impérieux, en fronçant ses petits sourcils blonds. « Faut venir à 2 heures le voir !» En même temps, il jeta de toute sa force ma pièce de 2 sous contre une des vitres du carré, la mit en morceaux et descendit l'escalier à cloche-pied en sifflant « Ça ira !»« Mais que demandez-vous » dis-je au vieux domestique. Et comme je vis que celui-là avait besoin d'être rassuré, je lui pris le bras par le coude et le fis entrer dans l'antichambre. Le bonhomme referma la porte de l'escalier avec de grandes précautions, regarda autour de lui encore une fois, s'avança en rasant la muraille et me dit à voix basse « C'est que monsieur, c'est que madame la duchesse est bien souffrante aujourd'hui. » « Mais laquelle ? » lui dis-je. « Voyons, parlez plus vite et plus haut, je ne vous ai pas encore vu. » Le pauvre homme parut un peu effrayé de ma brusquerie, et de même qu'il avait été déconcerté par la présence du petit garçon, il le fut complètement par la mienne. Ses vieilles joues pâles rougirent sur leurs pommettes, il fut obligé de s'asseoir, et ses genoux tremblaient un peu. « C'est madame de Saint-Aignan, » me dit-il timidement, et le plus bas qu'il put. « Eh bien, lui dis-je, du courage, je l'ai déjà soignée. J'irai la voir ce matin à la maison Lazare. Soyez tranquille, mon ami, la traite-t-on un peu mieux. »« Oh, toujours de même, » dit-il en soupirant. « Il y a quelqu'un qui lui donne un peu de fermeté, mais j'ai bien des raisons de crainte pour cette personne-là, et alors certainement madame succombera. » « Oh oui, telle que je la connais, elle succombera, elle ne reviendra pas. »« Bah, bah, mon brave homme, les femmes facilement abattues se relèvent aisément. Je sais les idées pour soutenir bien des faibles. J'irai lui parler ce matin. » Le bonhomme voulait bien m'en dire plus long, mais je ne le pris par la main, et lui dit « Tenez, mon ami, réveillez-moi mon domestique si vous le pouvez. » Et dites-lui qu'il me faut un chapeau pour sortir. » J'allais le laisser dans l'antichambre et je ne prenais plus garde à lui. Lorsqu'en ouvrant la porte de mon cabinet, je m'aperçus qu'il me suivait et il entra avec moi. Il avait, en entrant, jeté un long regard de terreur sur Blaireau, qui n'avait garde de s'éveiller. Eh bien, lui dis-je, êtes-vous fou? Non, monsieur, je suis suspect, me dit-il. Ah oui, ça c'est différent. C'est d'une position assez triste, mais respectable, repris-je. J'aurais dû vous deviner, hein, cet amour de se déguiser en domestique qui vous tient tous. C'est une monomanie. Eh bien, monsieur, j'ai là une grande armoire vide. Si peut-être agréable d'y entrer. J'ouvris les deux battants de l'armoire et le saluai comme lorsqu'on fait à quelqu'un les honneurs d'une chambre à coucher. Je crains, ajoutai-je, que vous n'y soyez pas commodément. Pourtant, j'y ai déjà logé 6 personnes l'une après l'autre. C'était, ma foi, vrai. Mon bonhomme prit, lorsqu'il fut seul avec moi, un air tout différent de sa première façon d'être. Il se grandit et se mit à son aise. Je vis un beau vieillard, moins voûté, plus digne mais toujours pâle. Sur mes assurances qu'il ne risquait rien et pouvait parler, il osa s'asseoir et respirer. « Monsieur, me dit-il en baissant les yeux, pour se remettre et s'efforcer de reprendre la dignité de son rang. « Monsieur, je veux sur le champ vous mettre au fait de ma personne et de ma visite. Je suis monsieur de Chénier. J'ai 2 fils qui, malheureusement, ont assez mal tourné. Ils ont tous deux donné dans la Révolution. L'un est représentant, j'en gémirai toute ma vie, c'est le plus mauvais. L'aîné est en prison, c'est le meilleur. Il est un peu dégrisé, monsieur, dans ce moment-ci. Je ne sais vraiment pas plus que lui pourquoi on me l'a coffré, ce pauvre garçon. Car il a fait des écrits bien révolutionnaires et qui ont dû plaire à tous ces buveurs de sang. Monsieur, lui dis-je, je vous demanderai la permission de vous rappeler qu'il y a un de ces buveurs qui m'attend à déjeuner. Oh, je le sais, monsieur, mais je croyais que c'était seulement en qualité de docteur, profession pour laquelle j'ai la plus haute vénération. Car après les médecins de l'âme, qui sont les prêtres et tout l'ecclésiastique généralement parlant, car je ne veux accepter aucun des ordres monastiques, certainement, les médecins du corps. Oui, doivent arriver à temps pour le sauver, interrompis-je encore, en lui secouant le bras pour le réveiller du radotage qui commençait à l'assoupir. Je connais, messieurs, vos fils. Pour abréger, monsieur, la seule chose qui me console, me dit-il, c'est que l'aîné, le prisonnier, l'officier, n'est pas poète comme celui de Charles IX. Et par conséquent, lorsque je leur ai tiré l'affaire, comme j'espère avec votre aide, si vous voulez bien le permettre, il n'attirera pas les yeux et les yeux polis par une publicité d'auteur. Bien jugé, dis-je, prenant mon parti d'écouter. N'est-ce pas, monsieur, continua cet excellent homme. André a de l'esprit, du reste, c'est lui qui a rédigé la lettre de Louis XVI à la Convention. Si je me suis travesti, c'est par égard pour vous, qui fréquentez tous ces coquins-là, et pour ne pas vous compromettre. Mais l'indépendance de caractère et le désintéressement ne peuvent jamais être compromis, dis-je, en passant. Bon, allez toujours. « Mon Dieu, monsieur, reprit-il avec une certaine vieille chaleur militaire, savez-vous qu'il serait affreux de compromettre un galant homme comme vous, à qui l'on vient demander un service ? J'ai déjà eu l'honneur de vous offrir, repris-je en montrant mon armoire avec galanterie. Non, ce n'est point là ce qu'il me faut, me dit-il. Je ne prétends point me cacher. Je veux me montrer, au contraire, plus que jamais. Nous sommes dans un temps où il faut se remuer. À tout âge, il faut se remuer. Et je ne crains pas pour ma vieille tête, mais mon pauvre André m'inquiète, monsieur. Je ne puis supporter qu'il reste à cette effroyable maison de Saint-Lazare. Mais il faut qu'il reste en prison, dis-je rudement. C'est ce qu'il a de mieux à faire. J'irai. Gardez-vous d'aller. Je parlerai. Gardez-vous de parler. Le pauvre homme se tut tout à coup et joignit les mains entre ses deux genoux avec une tristesse et une résignation capables d'attendrir les plus durs des hommes. Il me regardait comme un criminel à la question, regardait son juge dans quelque bienheureuse époque organique. Son vieux front nu se couvrit de rides, comme une mer paisible se couvre de vagues, et ces vagues prirent cours d'abord du bas en haut, par étonnement, puis du haut en bas, par affliction. « Oh, je vois bien, me dit-il, que Madame de Saint-Aignan s'est trompée. Je vous en veux point, parce que dans ces temps mauvais, chacun suit sa route. Mais je vous demande seulement le secret, et je ne vous apporterai plus, citoyen. » Ah, ce dernier mot me toucha, plus que tout le reste, par l'effort que fit le bon vieillard pour le prononcer. Sa bouche sembla jurer, et jamais depuis sa création, le mot de citoyen n'eut un pareil son. La première syllabe siffla longtemps, et les deux autres murmurèrent rapidement comme le coassement d'une grenouille qui barbonne dans un marais. Il y avait un mépris, une douleur suffocante, un désespoir si vrai dans ce citoyen que vous en eussiez frissonné, surtout si vous eussiez vu le bon vieillard se lever péniblement en appuyant ses deux mains à veines bleues sur ses deux genoux pour réussir à s'enlever du fauteuil. Je l'arrêtai au moment où il allait arriver à se tenir debout et je le replaçai doucement sur le coussin. Non, Madame de Saint-Aignan ne vous a point trompé, lui dis-je. Vous êtes devant un homme sûr, monsieur. Je n'ai jamais trahi les soupirs de personne. J'en ai reçu beaucoup, surtout des derniers soupirs, depuis quelque temps. Ma dureté le fit tressaillir. Je connais mieux que vous la situation des prisonniers, et surtout de celui qui vous doit la vie. Et à qui vous pouvez l'ôter, si vous continuez à vous remuer, comme vous dites. Souvenez-vous, monsieur, que dans les tremblements de terre, il faut rester en place et immobile. Il ne répondit que par un demi-salut de résignation et de politesse réservée, et je sentis que j'avais perdu sa confiance par ma rudesse. Ses yeux étaient plus que baissés et presque fermés. Quand je continuais à lui recommander un silence profond et une retraite absolue, je lui disais, oh, le plus poliment possible, cependant, que tous les âges ont leur étourderie, toutes les passions leurs imprudences, et que l'amour paternel est presque une passion. J'ajoutais qu'il devait penser, sans attendre de moi de plus grands détails, que je ne m'avançais pas à ce point auprès de lui, dans une circonstance aussi grave, sans être certain du danger qu'il y aurait à faire la plus légère démarche, que je ne pouvais lui dire pourquoi, mais qu'enfin il me pouvait croire, que personne n'était plus avant que moi dans la confidence des chefs actuels de l'État, que j'avais souvent profité des moments favorables de leur intimité pour soustraire quelques têtes humaines à leurs griffes, et les faire glisser entre leurs ongles, et que cependant, dans cette occasion, une des plus intéressantes qui se fût offerte, puisqu'il s'agissait de son fils aîné, intime ami d'une femme que j'avais vue naître et que je regardais comme mon enfant, je déclarais formellement qu'il fallait demeurer muet et laisser faire la destinée, comme un pilote sans boussole et sans étoile laisse faire le vent. Quelquefois. Non, il est dit qu'il existera toujours des caractères tellement polis, usés, énervés, débilités par la civilisation, qui se referment pour le froissement d'un mot comme des sensitives. Oui, moi, j'ai parfois le toucher rude. À présent, j'avais beau parler, il consentait à tout ce que je conseillais. Il tombait d'accord avec moi de tout ce que je disais. Mais je sentais sa politesse à fleur d'eau et un roc au fond. C'était l'entêtement des vieillards, ce misérable instinct d'une volonté myope qui surnage en nous quand toutes nos facultés sont englouties par le temps, comme un mauvais mât au-dessus d'un vaisseau submergé. Chapitre 23 Sur les hiéroglyphes du bon canonnier. Je passe aussi rapidement d'une idée à l'autre que l'œil de la lumière à l'ombre. Sitôt que je vis mon discours inutile, je me tus. Monsieur de Chénier se leva et je le reconduisis en silence jusqu'à la porte de l'escalier. Là seulement, je ne pus m'empêcher de lui prendre la main et de la lui serrer cordialement. Le pauvre vieillard, il en fut ému. Il se retourna et ajouta d'une voix douce, « Mais quoi de plus entêté que la douceur ? Je suis bien peiné de vous avoir importuné de ma demande. Et moi, lui dis-je, de voir que vous ne voulez pas me comprendre et que vous prendrez un bon conseil pour une défaite. Vous y réfléchirez, j'espère. » Il me salua profondément et sortit. Je revins me préparer à partir en haussant les épaules. Un grand corps me ferma le passage de mon cabinet. C'était mon canonnier, c'était Blaireau, réveillé aussi bien qu'il était en lui. Vous croyez peut-être qu'il pensait à me servir. Point. À ouvrir les portes. Pas le moins du monde. Mais à s'excuser, encore moins. Il avait ôté une manche de son habit de canonnier de Paris, et il s'amusait gravement à terminer, de la main droite, avec une aiguille, un dessin symbolique sur son bras gauche. Il se piquait jusqu'au sang, semait de la poudre dans les piqûres, l'enflammait et se trouvait tatoué pour toujours. C'est un vieil usage des soldats, comme vous le savez mieux que moi. Je ne pus m'empêcher de perdre encore 3 minutes à considérer cet original. Je lui pris le bras, il se dérangea peu et me l'abandonna avec complaisance et une satisfaction secrète. Il se regardait le bras avec douceur et vanité. « Hé, mon garçon, m'écriai-je, mais ton bras est un almanach de la cour et un calendrier républicain. » Il se frotta le menton avec un rire de finesse. C'était son geste favori, et il cracha loin de lui en mettant sa main devant sa bouche par politesse. Cela remplaçait chez lui tous les discours inutiles. C'était son signe de consentement ou d'embarras, de réflexion ou de détresse, maladie de corps de garde, tic de régiment. Je contemplais sans opposition ce bras héroïque et sentimental. La dernière inscription qu'il y avait faite était un bonnet phrygien placé sur un cœur et autour « Indivisibilité ou la mort ». « Oh, je vois bien, lui dis-je, que tu n'es pas fédéraliste comme les Girondins. » Il se gratta la tête. « Non, non, dit-il, ni la citoyenne rose non plus. » Et il me montrait finement une petite rose dessinée avec soin à côté du cœur, sous le bonnet. Ah, je vois pourquoi tu bois de si longtemps, lui dis-je. Mais je ne dénoncerai pas ton capitaine. Oh, dame, dit-il, pour être canonnier, on n'en est pas de pierre. Et Rose est fille d'une dame tricoteuse, et son père est geôlier à Saint-Lazare. Fameux emploi, ajouta-t-il avec orgueil. J'eus l'air de ne pas entendre ce renseignement dont je fis mon profit. Il avait l'air aussi de me donner cet avis par mégarde. Nous entendions ainsi parfaitement, toujours selon notre arrangement tacite. Je continuais à examiner ces hiéroglyphes de caserne avec l'attention d'un peintre en miniature. Immédiatement au-dessus du cœur, républicain et amoureux, on voyait peint en bleu un grand sabre, tenu par un petit blaireau debout, ou, comme on dit en langue héraldique, un blaireau rampant. Et au-dessus, en gros caractère, « Honneur à Blaireau, le bourreau des crânes !» Je levai vite la tête, comme on ferait pour voir si un portrait ressemblant. « Ceci, c'est toi, n'est-ce pas ? Ceci n'est plus pour la politique, mais pour la gloire !» Un léger sourire rida la longue figure jaune de mon canonnier, et il me dit paisiblement « Oui, oui, c'est moi !» Les crânes sont les 6 mètres d'armes à qui j'ai fait passer l'arme à gauche. Cela veut dire tuer, n'est-ce pas ? Oh, nous disons ça comme ça, reprit-il avec la même innocence. En effet, cet homme primitif, habile, sans le savoir, à la manière des héros de Tahiti, avait gravé sur son bras jaune, au bout du sabre du blaireau, 6 fleurets renversés qui semblaient l'adorer. Je voulais passer outre et remonter au-dessus du coude, mais je vis qu'il faisait quelque difficulté de relever sa manche. « Oh, ça, me dit-il, c'est quand j'étais recrue, oh, ça compte plus à présent. » Je compris sa pudeur en apercevant une fleur de lys colossale et au-dessus... « Vive les Bourbons et la Sainte-Barbe, amour éternel à Madeleine !»« Porte toujours des manches longues, mon enfant, lui dis-je, pour garder ta tête. Je te conseille aussi de n'ouvrir que des bras bien couverts à la citoyenne Rose. »« Bon, bon, reprit-il d'un air de niaiserie affectée, pourvu que son père m'ouvre les verrous, quelquefois entre les heures du guichet. » C'est tout ce qu'il faut pour... Je l'interrompis afin de n'être pas forcé de le questionner. Allons, lui dis-je en le frappant sur le bras. Tu es un prudent garçon. Tu n'as rien fait de mal depuis que je t'ai mis ici. Tu ne commenceras pas à présent. Accompagne-moi ce matin où je vais. J'aurai peut-être besoin de toi. Tu me suivras de loin dans le chemin et tu n'entreras dans les maisons que si cela te plaît. Que je te retrouve du moins dans la rue. » Il s'habilla en bâillant encore 2 ou 3 fois, se frotta les yeux et me laissa sortir avant lui, tout disposé à me suivre, son chapeau à 3 cornes sur l'oreille, et tenant en main une baguette blanche aussi longue que lui.